il y a le problème de où a disparu donc une partie de cette contamination, de ces effluents. Et vous, vous posez des questions sur, par exemple, la présence en aval d'une pollution qui serait peut-être antérieure à l'incident du 7 juillet. Sur quoi se base ces questions,
enfin, alors, au moins... c'est plus qu'une inquiétude, et puis je dirais que le fondement, c'est vraiment des analyses, des résultats d'analyse de l'exploitant et de l'expert officiel. Donc, je veux dire, c'est pas nous qui avons, c'est pas les résultats d'analyse de la CRIRAD qui seraient contestés par la partie adverse, exploitant ou État. Donc, c'est en fait, donc l'exploitant et l'État ont fait des mesures dans la nappe phréatique en aval du site du nucléaire pour voir justement l'impact du rejet radioactif de la socaterie, c'est-à-dire le rejet dans la gaffière et dans le lauzon et dans le sol. Est-ce que tout ça, ça avait provoqué ou pas une contamination de la nappe alluviale? Et donc, en analysant les résultats, ils se sont rendus compte qu'ils avaient de la contamination dans les forages, donc dans les puits que les personnes utilisent pour l'irrigation de leur potager, de leur champ pour les agriculteurs, mais aussi pour pour l'eau potable. Oui, c'est, j'allais finir sur le plus important, pour l'eau potable, et en continu, pas de temps en temps, c'est l'eau qui sort de leur robinet. Et donc, ils ont eu des valeurs qui attestaient une pollution, et même des valeurs supérieures aux normes de l'OMS, qui sont de 15 microgrammes par litre, puisque ça allait jusqu'à 50, voire 70 microgrammes par litre. Sauf que problème, ils cherchaient l'impact de socaterie, mais les endroits où il y a cette pollution ne peuvent pas être mis en rapport avec le rejet de socaterie, parce que c'est trop éloigné. Et c'est pas logique, on a moins à la socaterie que là, donc ça peut pas être mis en rapport. Du coup, nous, c'était un peu l'effet boomerang, c'est-à-dire qu'il y a 15 jours, on demandait la reprise de déchets radioactifs enfouis dans le sol un peu plus au nord, donc des déchets radioactifs uranifères, qui ont été enfouis dans une butte de sol sans protection de la nappe, qui ont provoqué des contaminations passées très importantes, et qui aujourd'hui encore laissent fuir de l'uranium. Donc on s'est dit, nous, on n'est pas sûr que tout l'uranium qui en aval vient de la butte qui laisse échapper de l'uranium, mais cette butte avec ses déchets radioactifs est responsable d'au moins une partie de la pollution. Donc vous cherchez, vous trouvez de la contamination, c'est pas socaterie, vous demandez d'où ça vient. Alors il y a sûrement des sources multiples, mais nous on en connaît au moins une, c'est ces déchets radioactifs dont on demande en vain l'enlèvement parce qu'ils sont vraiment mis comme ça dans le sol en violation complète de tout le béaba de gestion des déchets radioactifs. C'est-à-dire, un, il faut les isoler de la biosphère, et deux, on ne gère pas les déchets en les diluant dans la nappe et en renvoyant tout au Rhône. Donc on a une violation caractérisée, on sait que ça fuit, ça contamine maintenant à faible dose la nappe phréatique. Ce n'est pas étonnant qu'on trouve de l'uranium en aval du site.
Il y a plusieurs cas antérieurs à celui que vous venez de découvrir. Il y a eu déjà des pollutions avérées par le passé.
Des pollutions avérées, vous voulez dire sur le Tricastin ou ailleurs en France ?
Non, à partir de ce tumulus.
Ah, alors, le tumulus, c'est une histoire hallucinante. C'est-à-dire que tout a commencé... Alors déjà, la création de ce tumulus, de cette butte de terre, c'est simple. Dans les années 60, l'État français, mais le côté militaire, le CEA, donc militaire, commissariat à l'énergie atomique, construit sur le site du Tricastin des usines militaires d'enrichissement de l'uranium. C'est-à-dire vraiment...
IBM à vocation militaire.
Voilà, ce qu'on appelle...
INB.
Alors, installation nucléaire de base, S, c'est-à-dire INBS, installation nucléaire de base secrète, effectivement. C'est une des installations donc, sur le Tricastin. Donc, dans les années 60, on construit les usines d'enrichissement pour fabriquer la bombe, à partir d'uranium très enrichi en uranium-235. Et donc pour construire cette usine, on fait du terrassement et donc on pousse de la terre, d'où l'apparition de ce tertre, de cette butte qui fait 3-4 mètres de hauteur, peut-être 4-5 mètres à certains endroits, sur des dizaines de mètres de long. Ça fait un L, c'est en forme de L. Et donc l'usine militaire commence à fonctionner. Évidemment, elle produit des déchets radioactifs, et notamment ce qu'on appelle des barrières de diffusion, c'est-à-dire c'est à travers ça qu'on propulse le gaz radioactif à base d'uranium pour faire l'enrichissement. Et ces déchets radioactifs, au lieu de les mettre dans des fûts, et ces fûts de les mettre dans des installations et de le contrôler, ils ne trouvent rien de mieux à faire que de mettre ces barrières de diffusion sans protection directement dans cette butte de terre. Voilà, c'est ce qu'on appelle des charges sauvages, c'est-à-dire... Premièrement, ça va dans ce sol, la nappe n'est pas protégée, il n'y a pas de dalle, il n'y a pas de canalisation de récupération des eaux, et en plus, c'est même pas protégé en hauteur, c'est-à-dire qu'on ne met même pas une simple bâche au-dessus pour empêcher que les intempéries, la pluie, s'infiltre dans le sol, passe au travers des déchets et aille contaminer la nappe. Et c'est effectivement ce qui se produit, puisque dès 1977, donc on est 2 ans après la fin de l'enfouissement, puisqu'ils ont enfoui de 69 à 75, dès 1977, le CEA constate que la nappe est polluée au-dessous. Il ne fait rien, c'est-à-dire qu'il aurait pu se dire « Ah mince, on s'est planté, on va vite enlever les déchets ». Non, il constate que la nappe se pollue et il va suivre la contamination de la nappe, c'est-à-dire 78, 79, 80. En 80, le niveau d'uranium dans la nappe atteint 1000 fois ce que c'était au début. C'est-à-dire au début, on avait un niveau à peu près naturel, à 1 microgramme par litre, et là, on est à 1000 microgrammes par litre, c'est-à-dire 1 millilitre d'uranium par litre. À ce moment-là, il se dit, ah non, là, on ne peut pas laisser comme ça, parce que cette nappe, évidemment, elle continue de s'écouler en aval vers le domaine public, mais il ne va toujours pas reprendre les déchets. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait, alors, l'expression qui est dans le rapport officiel, j'adore, ça s'appelle, il fait un pompage de fixation de la radioactivité, un pompage de fixation de la contamination, pardon. Et c'est quoi ce pompage de fixation ? C'est que il pompe l'eau de la nappe contaminée, donc la nappe se contamine au fur et à mesure à cause des déchets. Il aspire donc avec ce pompage l'eau radioactive avec 173 mètres cubes d'eau par heure. Et ça va durer plus de 20 ans. Imaginez ce que ça veut dire. C'est des millions de mètres cubes d'eau qui sont prélevés de la nappe et rejetés sans traitement. C'est-à-dire qu'on n'enlève pas l'uranium, on le balance directement dans le Rhône. C'est ça qu'ils appellent un pompage de fixation de la contamination. Donc ça dure de 1980... au moins jusqu'en 1998, certainement plusieurs années après, on ne sait pas à quel moment ils ont arrêté le pompage. Toujours est-il qu'en 1998, dans un rapport officiel qui donne le bilan de la COGEMA, c'est-à-dire c'est pas, là encore, ce n'est pas la CRIRAD, ce n'est pas quelque chose de contestable, à mon avis, c'est le minimum, donc c'est la parole de l'exploitant, dit qu'il y a un tiers de l'uranium qui est parti des déchets et qui est passé à la nappe phréatique. Un tiers de toute la radioactivité en uranium qui était dans les déchets. Et à ce moment-là, de façon vraiment complètement cynique, l'exploitant dit « Ah ben, tout l'uranium qui devait partir est parti, donc ce n'est plus la peine d'enlever les déchets radioactifs. On va étudier la possibilité de couvrir éventuellement la butte de terre. » Alors, premièrement, quand ils disent que tout l'uranium qui est parti, c'est faux. C'est-à-dire, tout ce qui est parti, c'est ce qui devait partir très vite. Maintenant, les deux tiers d'uranium qui sont encore dans les déchets continuent de fuir, mais à faible dose, en petite quantité, puisque aujourd'hui, en 2008, on a toujours une contamination qui est créée dans la nappe à cause de ces déchets. L'exploitant considère que comme c'est plus bas, c'est la contamination, elle est de l'ordre de 8 microgrammes par litre, c'est ses propres chiffres en moyenne, et ça va jusqu'à 14 microgrammes par litre au niveau maximum. Donc lui, il accepte que la contamination continue, il trouve que ces niveaux-là sont normaux, que c'est acceptable, et cette eau radioactive qui est sous la butte, évidemment, elle s'écoule vers l'extérieur, et on la retrouve dans l'eau que consomment les personnes.